RCF.
Comment vivre une célébration chrétienne? Est-ce que c'est une expérience vitale? Et si oui, pourquoi? Le pape François y répond dans un texte intitulé « Un ardent désir » et plus précisément dans une lettre apostolique publiée en juin 2022, « Desiderio, Desideravi ». C'est une lettre qui s'adresse autant aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux personnes consacrées qu'aux fidèles laïcs. Et c'est avec vous, Père Charles-Marie Rigaille, que nous allons la lire. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes curé de paroisse à Lille, vous avez étudié à l'Institut Pontifical de Liturgie à Rome. Et cette lettre, elle vous intéresse, c'est une lettre pour redire, je cite, « la beauté et la vérité de la célébration chrétienne ». Est-ce que le pape François vient secouer les chrétiens, ceux qui banaliseraient peut-être ce moment de la messe, ou ceux qui se perdraient dans les fumées de l'encens? C'est quoi l'objectif de cette lettre?
Ah, c'est une grande question, beaucoup de gens se la sont posée. Elle vient un petit peu, de manière surprenante, prendre à rebours les questions de l'époque sur la liturgie. Ça vous aura pas échappé, il y a quelques tensions, quelques questions qui se posent. D'ailleurs, le pape François lui-même, hein, dans la première phrase de cette lettre apostolique, dit qu'il a déjà publié un motu proprio, Traditionis Custodes, où il reprend deux, trois choses, il prend des nouvelles règles, il interdit certaines choses. Donc ouais, on sent bien qu'il y a une certaine tension, des choses qui sont compliquées dans l'Église. Et avec ce texte-là, il change complètement de point de vue et on pourrait dire qu'il vient prendre les choses par le haut. D'une certaine manière. Donc on est loin des querelles, on est loin d'une prise de position très, très nette et très sévère. Il vient essayer de donner le sens et le fond des choses. Vous voyez, répondant à l'appel d'aller en profondeur, il vient parler de la liturgie, il vient proposer à tous les chrétiens du monde, parce que c'est à eux que ça s'adresse, cette lettre, de réinvestir la liturgie en se posant les bonnes questions. Et c'est là le sens du texte. Il dit plusieurs fois qu'il voudrait qu'on se pose certaines questions et qu'il voudrait qu'on y réponde.
Pour qu'on soit bien clair sur le mot liturgie, est-ce que liturgie c'est pareil que messe, c'est pareil que célébration chrétienne? Est-ce que ça enveloppe quelque chose de plus grand encore?
Alors, dans le vocabulaire du pape François, bien sûr que liturgie, ça dépasse largement simplement le rendez-vous du dimanche matin des catholiques, des chrétiens de manière générale. La liturgie, c'est quelque chose que l'on va vivre en commun pour exprimer notre union à Dieu et à l'Église de manière générale. Donc l'unité du peuple de Dieu qui se tourne vers son Seigneur pour lui rendre ce qui lui revient. Donc on voit bien qu'effectivement la liturgie, c'est tout à fait autre chose, et il le dit plusieurs fois dans son texte, qu'un ensemble de règles qu'il faudrait respecter ou de rendez-vous auxquels on est obligé de venir parce que ça fait partie de notre tradition ou de nos usages.
Alors on y reviendra, il revient dire ce qu'est véritablement ce moment. J'ai un ardent désir, c'est le titre de cette lettre. Alors l'ardent désir, c'est celui du pape François, que tout le monde retrouve cette joie de l'Eucharistie, ou est-ce que c'est encore un désir qui est celui du Christ, qui est celui de nous rassembler? Quel est cet ardent désir et d'où vient ce titre?
Alors le titre, moi je l'ai trouvé extraordinairement bien choisi, bien trouvé, parce qu'il dit justement le sens de cette lettre. Le pape François vient remettre les choses entre les mains du Christ, il vient remettre les choses dans la perspective de ce pourquoi on le fait, et plutôt que de rentrer dans les polémiques ou les questions de ce que chacun veut, voudrait, aimerait dans la forme de la liturgie, et vous savez que la liturgie ça touche au cœur de notre foi, et donc c'est vrai que ça suscite de manière naturelle des réactions un peu intérieures. Là, il remet dans le contexte de ce pourquoi est faite la liturgie. Et il vient donc citer cette phrase qui vient de la bouche de Jésus au moment de sa passion, au moment où il s'apprête à célébrer la scène. On est dans le chapitre 22 de Saint Luc, au verset 15, et il dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous ». Et en fait, le désir, donc c'est pas celui des chrétiens, c'est pas celui du pape François. Le désir, celui qui a le premier désiré nous voir participer à la liturgie, c'est le Christ. Et donc, c'est lui qui invite, et c'est lui qui est le premier à avoir choisi la liturgie, c'est autour du Christ, c'est le Christ qui est le premier acteur de la liturgie. Au-delà, bien avant, les prêtres, les fidèles, ou les querelles pour savoir qui fait quoi au cours de la liturgie. Le premier qui fait, et le premier qui donne toute sa raison d'être à ce que nous faisons en liturgie, c'est le Christ.
Père Charles-Marie, avant qu'on entre véritablement dans le texte, je voudrais que vous nous disiez une lettre apostolique. Est-ce que c'est une invitation aux fidèles, aux croyants, à nos auditeurs, à tout le monde? Est-ce que c'est coercitif? Est-ce que c'est simplement quelques indications? Est-ce que c'est presque une tribune? Est-ce que c'est un pamphlet? Comment c'est quoi le genre de la lettre pour la publication d'un pape?
Alors, la lettre apostolique, c'est un peu large comme titre. Il se trouve que c'est un texte dans lequel le pape met son autorité. Il y a des textes beaucoup plus importants. On verra les encycliques, les textes conciliaires évidemment ont une autorité beaucoup plus grande. Là, le pape François nous offre une méditation, mais il met quand même, enfin, c'est pas un texte qu'il aurait écrit comme une homélie ou un angélus du dimanche sur la place Saint-Pierre. Là, il met le sceau de son autorité apostolique. Et puis, une chose qui n'est pas si commune, c'est que cette fois-ci, contrairement aux autres lettres qu'il a pu écrire où il les adressait à des groupes en particulier, aux évêques ou à d'autres, là, il écrit aux évêques, aux prêtres, diacres, personnes consacrées, fidèles laïcs, c'est-à-dire l'ensemble du peuple de Dieu. Et donc cette lettre, elle est bien adressée à tous. Et c'est pour ça que c'est intéressant que nous en discutions aujourd'hui, parce que en réalité, elle est adressée à vous tous qui nous écoutez. Et l'enjeu, c'est de vous donner aussi un peu l'envie de la lire, de la comprendre, parce que c'est pas un texte compliqué que le pape François aurait fait avec des normes et des règles et des choses que vous ne comprendriez pas. Au contraire, cette lettre, elle est faite pour qu'elle soit lue, qu'elle soit un peu méditée, et en réalité, elle en vaut la peine. Il y a des choses, il y a des pépites, il y a des perles, et on aura l'occasion d'en parler.
Alors justement, on commence avec les premières phrases de ce texte, d'abord simplement parce qu'il évoque la liturgie. Il en parle non pas comme un rite social, mais vraiment comme un lieu, un moment pour lequel tout le monde serait invité. Qu'est-ce qui fait, pour reprendre le titre, le désir ardent, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce désir ardent, tout le monde n'y répond pas?
C'est une question à laquelle le pape François ne répond pas non plus. En revanche, il vient dire assez fortement que cette question que vous posez, elle est essentielle et qu'elle fait partie des questions que les chrétiens doivent se poser. En fait, le fait que tout le monde aujourd'hui ne se sente pas invité à cette rencontre que le Christ a voulu doit nous pincer un peu le cœur. Et il met dès les premières pages, on est dans le numéro 5, donc les numéros sont assez petits dans cette lettre. Dans le numéro 5, il dit « Le monde ne le sait pas encore, mais tous sont invités. Tous sont invités, il suffit simplement d'apporter l'habit nuptial de la foi qui vient de l'écoute de la parole. » Et alors, et c'est là que je voulais en venir, nous ne devrions pas nous permettre ne serait-ce qu'un instant de repos, sachant que tous n'ont pas encore reçu cette invitation. Vous voyez ? Et en fait, dès le début, il met la liturgie dans une perspective missionnaire. La liturgie est faite pour aller inviter, et inviter largement. Et vous voyez, ça participe à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le pape François vient, en parlant de la liturgie, prendre les choses par le haut, et regarder vraiment le fond des choses en nous disant, mais en fait, pourquoi la liturgie? Pas simplement pour que chacun s'y sente bien, pour que chacun puisse entendre les choses de la manière dont il le souhaite, mais vraiment, cette liturgie, elle nous dépasse, elle vient du Christ, et elle est faite pour le monde et pour l'évangélisation du monde.
Et alors, il a cette phrase, personne n'avait gagné sa place à ce repas. Là, il parle de la dernière scène. Aujourd'hui encore, personne n'a gagné sa place, mais tout le monde est invité.
Exactement. Si nous y sommes, c'est bien par invitation du Christ et c'est donc par grâce. La liturgie, la participation à l'Eucharistie, c'est pas d'abord un devoir, c'est pas d'abord un cadeau qui se ferait à certains ou une dignité que certains pourraient revendiquer. D'abord quelque chose que le Christ nous donne. Et à ce sens-là, le Christ a donné sa vie sur la croix pour tous, pour chacun d'entre nous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tout le monde participe à ce salut. Et donc, dès le début, vous voyez, on est dans le numéro 4, quand il dit que personne n'a gagné sa place à ce repas, il redit, il recontemple la scène, la sainte scène où participent quelques-uns. Vraiment, il y a Jean, il y a Pierre, il y a les autres apôtres, et ils nous aident à les contempler d'une certaine manière. Ils ont préparé cette table, ils ont préparé un repas, ils sont quelques-uns. Et le pape nous dit, en fait, il y en a quelques-uns, mais ces quelques-uns représentent chacun d'entre nous. Eux-mêmes n'avaient pas gagné leur place, eux-mêmes n'en étaient pas dignes. Et d'ailleurs, à chaque Eucharistie, on le redit, nous ne sommes pas dignes, mais ça ne nous empêche pas d'y aller. Effectivement, le Seigneur nous y invite largement.
Quelle est la responsabilité du chrétien, justement, pour rencontrer ceux qui n'ont pas reçu l'invitation, ceux qui l'ont oublié, ceux qui se sont perdus en chemin dans les méandres de la vie humaine? À quelle responsabilité il nous appelle?
Elle est difficile à estimer, cette responsabilité. En revanche, elle doit nous titiller. Et quand on regarde la liturgie, quand on prépare une liturgie, quand on discute de liturgie, c'est cette préoccupation-là qui doit nous animer. C'est, je crois, ce que le pape veut nous dire en insistant là-dessus. Donc, lorsque on entend les débats sur la liturgie et qu'il est question de comment est-ce qu'on va faire et que parfois ça monte un peu dans les tours parce qu'un tel n'est pas satisfait de telle forme, de telle manière, le pape vient remettre un petit peu les choses à plat en disant « Mais attendez, la première question à vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment missionnaire? Est-ce que c'est bien du Christ dont il s'agit? Ou est-ce que c'est de considérations personnelles, de préférences particulières? Mais les préférences particulières, elles ont leur place. Mais au chapitre 10, 20, 45 de la discussion, au début de la discussion, il s'agit d'abord de se mettre à contempler le Christ et de contempler le Christ qui se veut se donner à tous. Et donc, voilà, le Christ, par cette Eucharistie, par la scène, il a l'ardent désir, hein, c'est le titre de cette lettre, de rétablir la communion. Et c'est vraiment son projet. Et donc, il sera satisfait, hein, et c'est le pape qui le dit, ne sera pas satisfait tant que tout homme, toute tribu, toute langue, toute nation n'aura pas mangé le corps du Christ. Et donc cette perspective-là doit nous titiller, doit nous réveiller un petit peu et remet les choses d'une certaine manière à leur place quand on discute de liturgie.
Merci beaucoup, Père Charles-Marie. À demain.
À demain.